Je vous invite maintenant à rencontrer Philippe Beauvais, qui vient d'écrire un ouvrage sur les écoquartiers en Europe. Comment est-ce que l'on peut définir un écoquartier ?
C'est en fait assez simple, et c'est vrai d'ailleurs qu'il n'existe pas de définition en fait d'un écoquartier. Mais je dirais que pour moi, avant tout, un écoquartier, c'est un quartier, c'est un morceau de ville apaisé. C'est également un morceau de ville qui est ouvert aux thématiques actuelles, c'est-à-dire qu'il a été pensé, construit si c'est du neuf, rénové si c'est de l'ancien, en accord avec les thématiques environnementales, énergétiques et sociales qui sont aujourd'hui les plus importantes pour ce qui concerne la thématique de l'habitat.
Alors, vous avez fait donc un ouvrage sur les écoquartiers en Europe. Quels sont les points communs, si on peut dire, les lignes générales ? Donc, ce sont des quartiers apaisés, peut-être construits autour de l'humain plus qu'autour des machines ou du transport. Il y a des problématiques communes ?
Alors, je pense qu'il faut se rendre compte qu'un écoquartier naît avant tout de grandes discussions très ouvertes. Ce sont en général des concertations qui se mettent en place et qui sont en général tripartites, interviennent autour de la table les pouvoirs publics, donc ça peut être une municipalité, des représentants du secteur du bâtiment, ça peut être un cabinet d'architectes, une société d'économie mixte ou un promoteur particulièrement motivé. Et puis, troisième élément particulièrement important, les habitants potentiels, qui sont peut-être regroupés au sein d'une association de quartier ou d'un regroupement de futurs habitants intéressés par le fait d'habiter dans un écoquartier. Donc, les différents exemples que j'ai pris dans le livre sont bien sûr différents en fonction de chaque pays et bien sûr des habitudes qu'il y a dans chaque pays, mais il y a avant tout cette mise en place de discussions et d'une concertation qui aboutit à un projet de qualité. Et si les concertations sont véritablement bien faites, alors la greffe prend véritablement, c'est-à-dire que l'écoquartier va véritablement être bien habité, bien vécu de l'intérieur par ses habitants.
On va dire que la motivation principale doit venir des habitants.
La motivation principale ne doit pas venir seulement des habitants, elle doit aussi venir de tout le monde. Il est très important qu'une municipalité ait envie de réussir quelque chose d'important. Parce qu'il faut dire que pour la municipalité, pour les pouvoirs publics, il y a quelque chose de très politique dans un projet réussi, c'est la possibilité d'une réélection. Pour le secteur du bâtiment, un cabinet d'architectes, un promoteur motivé, c'est la possibilité de faire un bon exemple, de bien vendre un projet pour lequel il y a bien évidemment des demandes, mais qui pourrait se renouveler ailleurs. Donc tout le monde a intérêt à réussir cet écoquartier, et pas seulement avec les habitants. Tout le monde doit apprendre des uns des autres. C'est véritablement une concertation collégiale autour d'une table. C'est pas simplement une réunion d'information, comme quelquefois ça se fait trop facilement en France. Simplement, la municipalité informe de son nouveau projet et elle prétend que c'est de la concertation. Ce n'est pas le cas. Il faut véritablement que tout le monde s'enrichisse des discussions avec les uns les autres.
Il faut le construire ensemble.
Il faut tout à fait le construire ensemble, et c'est comme ça qu'il prendra et que les gens arriveront à s'intéresser à l'avenir de leur quartier, de leur lieu d'habitation, et puis que ce quartier aussi sera bien connecté aux autres zones qu'il y a autour.
Vous présentez 11 écoquartiers répartis à travers l'Europe. On ne va pas tous les citer ni les décrire, mais est-ce qu'on pourrait parler d'un ou deux ? Et c'est vrai que les plus emblématiques, le plus emblématique, c'est peut-être l'écoquartier BZ.
Alors l'écoquartier BZ, il est très intéressant. Donc il se trouve dans le sud de Londres, BZ signifiant donc Beddington, la commune où il est implanté, Beddington Zero Energy Development, c'est-à-dire sans énergie fossile. Il est particulièrement intéressant parce que pour une fois, lorsqu'il a été inauguré en 2002, ce n'était pas un écoquartier qui était dans un pays germanique, il n'était pas en Allemagne, en Autriche, en Suisse, ou dans un pays nordique, mais il était dans un pays plus connu pour sa pluviosité que pour son ensoleillement, donc l'Angleterre, et il est une très bonne leçon de choses. Par exemple, si vous allez visiter BZ, si les hommes politiques vont visiter BZ, parce qu'ils comprennent véritablement par cet exemple que la réflexion sur l'énergie, sur les économies d'énergie, sur l'énergie solaire, elle peut se faire partout. BZ, c'est une véritable leçon de choses, parce que c'est une leçon d'architecture bioclimatique avec des grandes fenêtres au sud, des petites au nord, une très bonne isolation. Et BZ a le très grand avantage d'être visitable facilement parce qu'il y a aussi un appartement témoin à BZ.
Donc on peut s'y rendre et puis découvrir ce que c'est qu'un écoquartier en rentrant carrément dans un logement.
Voilà, il y a un logement qui est là, il y a une partie visite. Qui est dédié à ce quartier. Il y a une réflexion qu'il est possible de mener sans gêner finalement personne, parce que dans d'autres quartiers, ou d'autres écoquartiers à travers l'Europe, c'est toujours un petit peu difficile d'entrer dans les appartements des gens, et ça se comprend, d'autant plus si on fait des visites en groupe. Mais à BZ, il y a un appartement témoin qui est dédié à la chose.
Dans tous ces écoquartiers, il y a toujours un endroit qui est un peu une salle commune, il y a des équipements communautaires.
En général, oui. En général, il y a une buanderie commune, il peut avoir un petit appartement qui peut servir, donc ça peut être un studio, un deux pièces, qui peut servir pour les amis de passage. Donc plutôt que d'avoir que tout le monde ait un appartement un petit peu trop grand avec une pièce de plus, ben là il y en a simplement une ou deux pour l'ensemble du bâti. Donc c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Je pense, quand vous prenez cet exemple-là, je pense à l'exemple du quartier Vesterbro qui se trouve à côté de la gare centrale de Copenhague. Et là, dans cet éco-quartier rénové, parce que c'est à partir de vieux bâtiments que là on a conçu une rénovation véritablement exemplaire, dans le milieu de la cour, on a construit un petit bâtiment qui intègre évidemment une buanderie, différentes pièces que l'on peut utiliser pour avoir des cours de musique, des cours de yoga, des cours de théâtre, toute activité que l'on voudrait. Il y a même aussi une cuisine, il y a une grande terrasse devant ce bâtiment où en été les habitants du quartier peuvent faire ensemble des grillades. Donc cet espace communautaire est important parce que c'est un lieu où on se retrouve, c'est un lieu que l'on gère ensemble, dont on gère la propreté, dont on gère les plantes. Donc c'est un point de rencontre important, et en général, il y a une demande des habitants pour de tels lieux dans les écoquartiers.
Est-ce qu'on peut dire qu'on ne vit pas dans un écoquartier comme on vivrait dans un endroit, on va dire entre guillemets, normal ?
On est évidemment un petit peu moins indifférent aux uns et aux autres. Ce sont des copropriétés, ce sont des bâtiments qui sont pensés pour qu'il y ait de l'interaction les uns avec les autres. Alors il n'y a aucune obligation. Vous pouvez continuer à vivre de façon un petit peu
individualiste.
Voilà, un petit peu individualiste, un petit peu froide. Vous n'êtes pas obligé de faire avec les autres. Mais si vous voulez faire avec les autres, vous avez la possibilité et vous avez les structures de partage qui sont là. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant.
Alors, parlez-nous aussi de l'écozac de Rungis qui est en devenir.
Alors, l'écozac de Rungis, donc ça se situe dans le sud du 13e arrondissement. Ce sera, quand ce sera terminé en 2012, le premier écoquartier de Paris intramuros. C'est sur une ZAC de 3,8 hectares, c'est une ancienne friche SNCF qui a été à l'abandon pendant très longtemps. Et là, il y a une association, les Amis de l'Écozac, qui s'est créée en 2005 et qui a fait du lobbying environnemental pour que cette friche soit aménagée en prenant en compte donc les thématiques de l'époque, donc ce que je disais tout à l'heure, les thématiques environnementales, énergétiques, sociales, les thématiques de transport, etc., etc. Et via ce lobbying environnemental, ça a marché. Cette association que j'ai créée, que j'ai présidée un temps, a réussi à faire passer le courant en emmenant notamment des élus visiter des écoquartiers exemplaires, donc celui de BZ qu'on citait tout à l'heure, des écoquartiers dans la ville allemande de Fribourg. Et l'intérêt de ces visites, c'était véritablement que les élus comprennent qu'il y a un autre type de bâti que l'on peut construire, et surtout que l'on se doit de construire, que l'on a la responsabilité de construire lorsqu'on est élu aujourd'hui. Donc on doit construire un habitat apaisé, et il faut que les élus qui ne connaissent pas forcément ces thématiques-là se rendent compte qu'un écoquartier, c'est avant tout de la qualité de vie. La voiture n'y est pas interdite, mais on peut vivre et bien vivre sans, ou alors en louant une, en en partageant une avec d'autres. Les écoquartiers ne sont pas des ghettos d'ex-68 archevelus, ce sont des morceaux de ville qui ont été bien pensés, avec les transports en commun implantés dès le départ, etc., etc., des petits commerces, des écoles à proximité, et on y vit tourné vers son siècle et les enjeux du siècle qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc il y a dans cette ZAC de Rungis, il y a des logements, des bureaux, il y a un mélange des deux, mais il y aura 40 000 mètres carrés qui vont être construits, 19 000 mètres carrés de bureaux, 13 000 mètres carrés de logements, un jardin de 5 000 mètres carrés, puis un pôle d'équipement public.
Ce sera le premier écoquartier dans une grande ville de France ?
Je ne sais pas s'il faut dire le premier de France, et à la limite, ça n'a peut-être même pas d'importance, parce qu'il y a d'autres démarches intéressantes qui se font dans d'autres villes, mais en tout cas, ce sera le premier de Paris. Mais le but n'était pas qu'il soit le premier, le but était avant tout que nombre d'élus comprennent les enjeux qu'il y a, les enjeux énergétiques et environnementaux qu'il y a aujourd'hui sur les parcelles qui sont à construire en ville et qui doivent être des vitrines pour que l'on comprenne mieux les enjeux et puis que ces vitrines finalement fassent tache d'huile pour des rénovations exemplaires dans le bâti existant.
Quel est l'objectif de votre ouvrage ? C'est tirer profit de l'expérience de nos voisins pour reconstruire des écoquartiers ?
Oui, c'est avant tout l'idée. C'était avant tout de faire un ouvrage très grand public. C'est pas un ouvrage qui est dédié aux techniciens ou aux gens déjà motivés par ces questions-là ou occupés par ces questions-là. Tous ces écoquartiers sont différents. Ils sont quelquefois de toute petite taille. Il y a des réalisations neuves. Il y a des réalisations qui ont été des quartiers de ville qui ont été rénovés et avec à l'aide de chiffres, mais pas trop, de cartes, de plans, finalement, de ces écoquartiers. Le but est de faire passer un message ou faire passer l'information un peu vers tout le monde, évidemment, vers aussi les décideurs, mais vers tout un chacun, et que l'on n'ait pas de crainte, notamment en France, parce qu'on est un pays quand même très, très frileux vers les changements, que l'on n'ait pas de crainte, que l'on comprenne que ces écoquartiers sont simplement des morceaux de ville apaisés, et cet apaisement, je pense que la plupart de nos concitoyens le recherchent, et on le trouve lorsqu'on visite ces écoquartiers à travers l'Europe.
Je vous remercie beaucoup, Philippe Beauvais. Donc vous êtes l'auteur de Écoquartiers en Europe aux éditions Terre Vivante.